Est-ce que tu penses que Fury est sous-estimé dans ce combat-là? Est-ce que tu aurais un avis sur le combat ou pas du tout? Pas une analyse complète. Hein.
Alors, juste moi, Manon, c'est la seule fille que je regarde parce que je regarde pas les combats féminins, j'aime pas ça.
Très bien.
Mais Manon Fiorot, c'est la. Et Rose, elle est meilleure en lui, elle a plus d'expérience et tout ça. Ben là, elle a gagné hier soir ou pas?
Il me semble que.
Je regarde pas les combats féminins.
Je sais pas, j'ai pas regardé. Tu regardes pas normalement, je te comprends.
Ah la honte. Ah la honte, on se fait prendre au dépourvu. Attends, on va aller voir tout de suite.
Je crois qu'elle a gagné, ouais. Mais je crois qu'elle a gagné.
Il y a la seule qui a regardé, on est tous les mêmes. Yeah, I'm different. They can go the keys and I'll leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall,
we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOATs, que vous passez une excellente semaine, un excellent week-end en fonction de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui, un invité spécial que vous avez déjà vu ici, Azael Hajjoug. Comment tu vas?
Ça va au top, hein, tranquille.
Un plaisir.
Bon dimanche. Je me retrouve avec vous ici, on est bien.
On est bien. Karl, comment tu vas?
Comme d'habitude, tout va bien, content d'être là. Let's go. Hein.
Let's go.
Sim. Ouais, ça va,
le favori,
bien.
Le foufou.
Qui plus est avec le sultan.
Moi, toujours un plaisir d'être avec toi, mon petit bel Washi.
Ça commence bien, les gars, ça commence bien, ça met le ton. Et la surtout, bah, là, en général, nous, on n'a pas l'habitude de te voir en France. On sait que tu as combattu en France dernièrement, mais on sait que tu t'entraînes pas ici. Qu'est-ce qui nous vaut ta venue là actuellement? Comment ça se fait que tu étais en France actuellement?
Ben, depuis mon combat, hein, c'était en 2022 contre Jordan Barton. Là, je suis souvent en France, okay. Même un peu plus en France qu'en Irlande.
D'accord.
Là, j'habite à Paris et je retourne en Irlande juste dès que j'ai un combat. Là, à la fin du Ramadan, je vais repartir en Irlande pendant les 5 dernières semaines de prépa. Et quand je suis à Paris, je m'entraîne à l'US Metro. Donc, on a une bonne team et j'arrive à bien m'entraîner entre les deux. Donc, ça se complète. C'est ça ce que j'aime bien.
C'est carré. Et du coup, là, le prochain combat, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, c'est pour quand, si tu peux l'annoncer là?
Prochain combat, c'est le 17 mai.
17 mai.
Face à un Brésilien qui est 7-0, champion du Jungle Fight au Brésil. Et ben, va falloir le fumer, hein. Ça sera sa première défaite. Voilà. Et moi, je vais continuer. 8 victoires d'affilée, c'est l'objectif.
8 victoires d'affilée. Alors, on s'avance pas trop. On est très terre à terre, très réaliste. On disait très bien. On souhaite vraiment la victoire. Quand elle sera là, vraiment prise, là, ça fait 8 victoires d'affilée. C'est quand même sérieux. Et c'est quand même costaud, surtout dans cette organisation du Bellator.
Ouais.
Même si on n'a pas dit que toutes les victoires avaient été faites dans cet organe, mais là, après, on peut viser peut-être beaucoup, beaucoup plus haut. Pourquoi pas? Je sais qu'on va pas s'avancer trop vite. On va étape par étape. Mais est-ce que tu as peut-être des envies de plus haut tableau ou des choses comme
ça? Ouais, bah, étape par étape. Bah, moi, comme d'habitude, là, on m'a envoyé le Brésilien. J'ai dit oui direct en même pas 3 minutes, comme d'hab. Et ça sera la même chose pour le prochain. J'espère enchaîner si je ne suis pas blessé et directement repartir en juin ou en juillet parce qu'il me reste encore 2 combats dans mon contrat au Bellator. Donc, ça sera celui de Paris. Après, il m'en restera un.
Okay.
On verra si on re-signe ou on ne re-signe pas. Mais ouais, mais après, prochain combat, je combattrai n'importe qui aussi. Et en espérant un top 10, un mec classé ou quelque chose comme ça.
Propre.
C'est propre, surtout que, ouais, comme tu dis, des victoires d'affilée comme ça, t'as encore 2 combats dans ton contrat. Normalement, si tout se passe bien, ils vont pouvoir te proposer un contrat encore plus alléchant.
C'est ça, exactement.
Si sportivement, tu fais le taf. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'aimerais bien encore gravir les échelons dans ta catégorie au Bellator? Donc toi, en catégorie featherweight, c'est ça?
Ouais.
66 kilos au Bellator. Et est-ce que t'aimerais bien probablement essayer d'aller chercher la ceinture dans cette organisation? Ou aujourd'hui, t'es plus focalisé, par exemple, sur un possible tournoi, les fameux tournois à 1 million? C'est quoi un peu la suite?
Ouais, ben là, honnêtement, je vais vraiment me concentrer sur mon prochain combat, le combat d'après. Et après, on verra la proposition du Bellator parce qu'il faut que je gagne. Après, ça me fera 3 combats sur 4. En général, ils te reproposent à partir du 3e combat quand tu as 3 victoires d'affilée. Et on verra où je vais signer avec eux. On verra les autres propositions. Je reste ouvert à tout. Et donc là, j'attends et je ne me projette pas trop sur le futur, sur aller chercher la ceinture ou quoi que ce soit. Là, j'attends de voir ce qu'ils vont proposer si je gagne mon prochain combat, en gagnant le prochain combat.
Ça va le faire. Et ça te fait quoi de combattre à Bercy? Déjà, c'est pas la première fois.
Ouais, c'est la deuxième fois.
La deuxième fois, là, à Bercy, le 17 mai.
Ouais.
Une carte qui est pas mal, hein.
Ouais, avec Ousmane, Nurmagomedov, le cousin de Khabib, ouais. Avec Magomed Tiger. Non, il y a du monde sur la carte. Il y a Yves qui va être là, Yves Landu.
C'est ça. Il y a, y a pas mal de monde. On a aussi Baben, Grégory Baben, ouais, qui Baben, sera sur la carte. Ouais. Ça va être intéressant. Donc, c'est une belle carte. Mais tu as déjà fait une belle carte aussi à Paris l'an dernier.
L'année dernière, ouais. J'avais fait un combat de merde, mais une belle carte. Ouais.
Il est dur avec lui. Il est dur avec lui.
Highlight de pied-point.
Troisième round bien pété. Cette année-là, je serais bien prêt physiquement. Même là, je fais attention. Enfin, attention.
Ça, c'est
que... un grand mot à ma diète. Mais genre, là, j'ai commencé. Je réduis bien mon sucre et tout dès maintenant pour pas me retrouver comme l'année dernière en mode carbo au bout du troisième round parce que ça a bien foutu la haine.
Ouais.
En face, moi, je pensais qu'il était solide en tout cas en face parce que c'était quelqu'un. Solide, hein. Tu l'as dominé et c'était quelqu'un qui était un client selon moi, tu vois.
Ouais, donc,
franchement, chapeau.
C'est vrai, c'était pas un clown. C'est un bon Sasso en plus.
Ouais, exactement. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que ça, on en a pas parlé, malheureusement, on n'a pas pu t'avoir avant. Ça t'a fait quoi de combattre devant ce public-là et dans ce cadre-là?
Honnêtement, c'était grave bien de combattre à Paris et tout, surtout que c'est à côté de chez moi. Donc j'ai pu même dormir chez moi parce que l'hôtel était vraiment... En fait, il y a Bercy qui est là, il y a l'hôtel et moi j'habite en face de l'hôtel. Genre j'habite à 100 mètres de l'hôtel où je dormais. J'ai dormi chez moi. Et non, franchement, c'était lourd. Après, franchement, le soir, moi, quand j'arrive dans l'aréna, je combattais en Irlande, en France, ça me change rien du tout. Ou à Abu Dhabi, quand j'ai combattu à Abu Dhabi, c'est vraiment la même chose. Tout, je me suis concentré que sur la cage. Le reste, qu'il y ait l'aréna qui soit pleine à 20 000 personnes ou qu'il y ait 100 personnes, ça me fait rien. Parce
j'entends même pas, des fois.
J'entends juste mes coachs, mon père Rémi, mon coach d'Irlande John, et c'est tout.
Carré. Ouais, c'est vrai, parce que là, on en parlait justement dans un podcast précédent avec Elias, que tu connais, c'est que parfois, le cadre, la situation fait que tu n'entends pas forcément les consignes. Toi, tu t'es jamais retrouvé dans cette configuration-là? Il y a tellement de boucans dans l'aréna que tu n'arrives même pas à entendre ton coin.
Ça m'est déjà arrivé en pied-point, mais le... Non, ouais, en MMA, ça m'est pas vraiment arrivé. Pourtant, en Irlande, des fois, il y a vraiment du bruit et tout. Ouais. Mais non, j'entends toujours... Mais par contre, il y a un truc qui était bizarre, c'était pendant le Covid. Mon deuxième combat avec le Bellator, mon deuxième combat pro, où là, c'était à huis clos. Du coup, c'était une énorme arena, pas comme Bercy, un peu plus petite. Je crois qu'il y a 15 000 personnes en Italie.
Ouais.
Et là, par contre, il y avait personne. Il y avait que les officiels, une table avec les mecs du Bellator. Donc, il y avait peut-être 30 personnes dans une énorme arena, comme c'était au Zénith ou quoi, avec personne.
Ouais.
Genre qu'avec... Et donc là, dès que t'envoyais un low kick, t'entendais tout, c'était une dingue.
Déjà que dans ces configurations-là, nous, devant notre écran, on entend bien les coups. Alors j'imagine pas toi qui es direct dans le feu de l'action.
Ouais,
dans la cage.
C'était ouf. Et les coachs, comment je les entendais, c'était génial.
Il y avait ton père.
Ouais. Bah, mon père qui me disait de mettre des pénaltys dans la tête quand l'autre il était par terre alors que c'est chaud, on n'a pas trop le droit.
Non, après, il faut expliquer pour le coup. Le daron, il vient pas du MMA, mais il vient du pied-point.
Et pour lui, le free fight, c'est comme Royce Gracie à l'époque où t'as le droit de mettre des coups de tête. Et... Bon, maintenant, il sait hein, parce que c'était mon deuxième combat pro. Là, maintenant, il est bien au courant. Mais ouais, avant, il croyait que c'était comme à l'ancienne, je crois.
J'aime bien cette anecdote. J'aime bien. T'imagines, toi?
En plus, moi, je vois bien dire ça. Penalty
dans la tête. Non, parce qu'en fait, il était par terre. Moi, j'étais debout. Bam, j'envoie des low kicks plein pot pendant que l'autre il est par terre. Je lui tape dans les jambes. Et là, j'entends mon père dans la tête. Dans la tête, Azel.
Démarre.
Laisse tomber.
Ouais, bah du coup, là, tu reviens à Paris.
Ouais.
Le 17 mai.
Je suis content.
On était là au précédent. On espère normalement, on sera là aussi. Pour celui-ci.
Yes.
Donc, c'est un plaisir de te voir combattre. Là, on va parler un peu plus d'actu. Hein.
Yes.
Un peu plus d'actu parce que toi, t'as... je ne sais pas si on peut dire ou pas s'il avait été aussi touché par ça. C'est un filocoque.
Voilà.
Ça t'a entre guillemets concerné. Ça a concerné surtout un gros combattant français de l'actuel international qui a combattu une légende du MMA, une légende de l'UFC, surtout de Stipe Poirier, BSD, Benoît Saint-Denis, qui après son combat, sa défaite, malheureusement par KO, on a vu, nous, avant, malheureusement, on l'avait ressenti, hein, notre frayeur s'est réalisée. Il le cachait à la casquette, mais gros staff sur la tête. Et après cette défaite-là, on a Dustin Poirier qui n'est pas très content du fait que Benoît en parle. Il y a certains Français qui disent que c'est une excuse, d'autres qui disent que c'est presque impossible, notamment Mohamed Mokaev, le jeune prospect de l'UFC invaincu, qui a dit que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un combattant lors d'une fight week, combattre avec un staff. Toi, qui as eu reçu récemment aussi, tu as eu une infection, staff, au visage en plus, si je ne me trompe pas,
ici, là.
Ici c'est vraiment compliqué de combattre avec un staff. Là, on parle pour ceux qui ne s'y connaissent pas, les no-fits,
ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, en fait... Moi, ça, c'est le premier staff qui me met vraiment, vraiment dans le mal. J'en ai eu d'autres avant.
OK.
Mais où j'étais pas trop dans le mal, où hop, j'ai vu que ça commençait. Attention, celui que j'avais au coude ici, en plus. Ouais. Justement, hop, ça avait commencé. Directement, j'avais pris mes antibios. J'avais pas eu de fièvre, rien. Mais là, le dernier que j'ai eu au visage, là, c'était chaud. Là, impossible de combattre. Parce que, ouais, j'étais au lit, 39 de fièvre. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Après, ça dépend à quel moment tu le prends, à quel stade tu le prends. Et donc ça, après, c'est propre à chacun. Mais les antibiotiques, par contre, ça te fume. Pour le coaching et tout ça, tu n'as pas la même énergie que quand tu es bien. C'est, on l'a vu sur le combat avec Mokaev. Même moi, quand je regardais le combat, je me disais, wesh, mais il a quoi normalement? Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Et là, il était à bout de souffle. Alors que je l'ai vu en Thaïlande pendant sa prépa, il était à fond, quoi, en pleine forme et tout ça. Après, pour Benoît, c'est la même chose. Il avait un trou dans... Quand on voit la photo, il avait un trou. C'est ouf.
Et surtout, moi, je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, c'est que pendant le combat, tu le vois. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent que c'est une excuse. Tu regardes le premier round, il domine Poirier dans les phases de lutte, grappling, tout ça. Tu vois, il lui fait... il lui met la pression dès le début. Et tu vois, à la fin du premier round, tu vois, il envoie un peu des points, il envoie son bras arrière, son bras avant, et tu sens qu'il est déjà carbonisé comme s'il était fin du cinquième round. Il a plus rien, tu le vois. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais tu remarques qu'il est déjà carbonisé fin du premier round, Benoît, après les phases de scramble un peu.
Ouais, ça, je suis d'accord. Et après aussi, le truc qu'il y a avec Poirier, je pense que c'était peut-être aussi une des premières fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à matcher, enfin à ne pas se laisser complètement submerger par la pression.
Ouais.
Que ça peut, le staphylocoque, bien sûr, ça rentre en compte. Et en plus, l'expérience de Poirier qui arrive à défendre sans trop se fatiguer, qui, même s'il se faisait monter en l'air, Poirier, il était toujours plus ou moins
il faisait
attention. Ouais, c'est. Et ça, je pense qu'aussi, ça peut
rentrer dans l'équation.
Tu arrives, tu es fatigué, tu as envoyé. Ben c'était 5 minutes limite de all-out, genre il ne s'est pas arrêté.
Ouais,
clairement. Et ça reste un être humain. Hein, même quand on a le plus grand mental, le plus gros cardio, on ne peut pas tenir 5 fois 5 comme ça aussi. Hein,
je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu fais bien de souligner que ça n'enlève rien au talent de Dustin et à son
expérience. Aussi, ouais.
Parce que Dustin, quoi qu'il arrive, c'est un mec, même quand il se fait malmener, il sort jamais de son combat. Ça veut dire il peut perdre 4 rounds, au dernier il peut arriver et finir le combat. Donc,
exactement.
Là, on va dire que en plus du staphylocoque, c'était vraiment c'était pas le mot face au bon adversaire.
Grave, exactement. Vas-y, parle.
Et t'as parlé de quelque chose de super intéressant, c'était le timing au moment où lui il l'a eu, et c'était pendant la période de cutting, c'est ça?
Ouais. Ouais.
Mais c'est le pire moment pour l'avoir, le staph.
Bah, quand tu perds du poids, tu as ton système immunitaire qui baisse aussi, donc ton corps il se défend pas comme il pourrait se défendre, et quand tu as un staphylocoque et du coup que tu as un système immunitaire bas, bah finalement bah le staph il se développe un peu plus que habituellement et il te fatigue plus.
Pendant une semaine, tu manges pas de glucides, t'es mort.
Pendant le cutting, c'est pire, tu vois. Pendant le cutting, tu as besoin d'énergie.
De fou.
Ah, c'est. Bah, le cutting, on en parlait tout à l'heure avec Elias, il nous a dit Il a dit que c'était à ce moment-là qu'il a compris ce qu'on disait sur le, sur le cutting. mais le cutting c'est vraiment très très dur, tu vois.
C'est dur, ça.
C'est un combat dans le combat.
Quand tu fais le poids, t'as l'impression d'avoir gagné le combat déjà.
Ouais. Des fois, c'est même pire.
Ouais,
si
c'est
tu
ça.
Finis ton fight, tranquille.
C'est ça.
Tu vois, le plus dur, c'est le cutting.
Ça, pour moi, c'est le cutting, c'est pareil. Le cutting, c'est dur.
Surtout que tu nous as parlé de ton historique, Francis, pour toi, vu les habitudes alimentaires.
Oui. Surtout que lui, il combat en featherweight.
Ouais.
Franchement, c'est un grand cutting pour toi, vu ta taille, ton gabarit.
Ouais,
c'est un poids quand même pour l'atteindre, c'est pas si simple non plus. Hein.
Ouais, c'est ça. Après, je perds pas énormément de poids comparé aux autres featherweight, mais c'est vrai que je suis bien sec.
Tu perds combien à peu près la dernière semaine? Il te reste combien à perdre
Le dernier jour, je perds 4 à 5 kilos.
Ouais, que de l'eau. Hein.
Ouais, le matin, je me la pesais. Le matin, avant la pesée, donc le jeudi, si je me pèse le vendredi matin, je suis à... Quand je suis en dessous de 71, je suis content. Okay. Et quand le soir, je commence à cutter, si je suis à 70, je suis content. Il me reste 3,8 kg parce que c'est 66-200. La...
Ouais,
66-250.
Ouais, c'est ça. C'est pas négligeable parce que là, on est dans le détail. Là, déjà.
Ouais, et c'est 66-200 avec la tolérance de
500 grammes.
Pound.
Ok.
Ouais. Ouais. Pound.
Ok, ok. Et en règle générale, tu combats à peu près, t'es à combien de kilos le jour du combat dans
74 kilos.
Ok. Donc tu reprends vraiment à 8 kilos en fait.
Ouais.
Ok, ok, ok.
Pas de forme.
Ouais, c'est, forme, ça, hein. C'est mon poids de forme. Hein. Enfin, voilà, quand je suis bien, je suis à 74. Après, ça m'est déjà arrivé de revenir dans la cage à 73.
Ouais.
Moi, ça va, remonté. Tu remarques pas trop de différence ouais, dans ta performance.
Moi, je suis déjà remonté à 75,5.
Putain, ça, j'ai jamais fait encore. Enfin, j'ai fait. Par contre, j'ai fait avec Sassou, mais je me suis pesé à 68.
Ouais.
Et le lendemain, j'étais à 76,5.
Ouais.
Ouais.
Énorme.
Connaissant tous ces facteurs de difficulté. Lorsque tu fais un cutting, est-ce que tu comprends la décision de BSD d'avoir poursuivi et d'avoir continué à aller vers ce combat-là qui était très dangereux, ou tu te poses un peu des questions sur la décision, tu la remets en cause? Est-ce que tu penses que il a fait le bon choix, il n'a pas déçu Dana White, même s'il a perdu, il n'a pas déçu entre guillemets les équipes de Dustin, il a respecté son adversaire, il a fait le combat,
surtout...
ou toi tu te dis il n'aurait pas dû faire le combat?
Surtout, il repart quand même le bonus du combat de la soirée, en plus de ça.
Ah, ça, je ne savais pas.
Jusqu'au bout, il n'a pas déçu, tu vois.
Ah, il a eu le bonus ?
Il a eu le bonus du combat de la soirée, ah, malgré la défaite.
C'est
magnifique.
Donc, jusqu'au bout, Dana White,
magnifique.
Ah, ça, il n'y a pas de problème là, pour un prochain contrat.
Ouais. Voilà, pour le coup, là, ça répond peut-être plus à notre élément de réponse. Est-ce que toi, tu aurais fait ça ou tu te serais rétracté ? Tu dis, ah, je préfère avoir un no fight, peut-être décevoir Dana sur ce coup-là et autres, et après, continuer à avoir une série de victoires ou...
Moi, je serais allé au combat aussi.
Serais allé au combat aussi.
Ouais. Comme je suis déjà allé, mon combat le plus dur que sur le papier que j'ai eu, c'est la même chose. Tout le monde me disait de pull out de pas prendre le combat. Le dernier mois où j'ai pas pu m'entraîner pendant 3-4 semaines avant le combat, parce que j'étais blessé à la côte, je pouvais plus rien faire. Et juste à la fin, je pouvais refaire des 400 mètres courir. Mais je m'étais quasiment pas entraîné pendant le dernier mois et tout le monde me disait vas-y, il faut arrêter. Même John Cavanaugh. Il était venu me voir, il m'avait dit je vais te sortir du combat et tout ça, je vais te mettre forfait. Et je disais, j'ai supplié, j'ai dit non, j'ai besoin de combattre. Et
en plus c'était un gros combat. C'était Barton en face.
Ouais, face à Barton. Ouais.
Barton,
attends,
c'est
quand tu l'as été avec Leggy là.
Ouais.
Oh la dinguerie.
Ouais.
Oh la dinguerie, c'était une dinguerie.
C'était un gros combat et Barton, nous on l'avait vu à Paris.
Il sortait de la victoire face à Baba.
Voilà.
Ouais.
Et tu te souviens ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit, il est énorme, on dirait pas un featherweight.
Ouais, c'est vrai.
Et pour le coup, Barton, c'est un des mecs qui, je sais pas, il maîtrise le cutting, mais je te jure, je sais pas, il remonte à combien, mais il est
et
énorme.
Et il a fait le poids à la dernière minute, à 9h59. On pouvait se peser de 9 à 10, c'est toujours ça au Bellator. Tous les matins, c'est de 9 à 10. Et à partir du moment où si tu te pèses, par exemple, à
10h01,
c'est fini, t'es disqualifié. Où tu dois venir à 59 et si tu rates le poids, tu rates le poids. Et là, on l'avait vu arriver à 59, complètement, il tenait à peine debout, serviette autour, déshydraté, mort. Mais il a fait le poids. Hein.
À quel prix?
Il a fait le poids pour se faire cher.
Il a fait le poids et il a pris son KO.
C'est ça.
Non, c'est fort parce que là, moi, je savais pas que tu avais autant souffert dans l'avant-combat. Moi, je me suis dit, ah non, il a une super prépa, regarde comment il l'a éteint. Et en tant que spectateur, nous, quand on voit la performance, on se dit, la performance valide la méthode. Donc, on se dit, c'est un super camp d'entraînement. Mais là, c'est super, super anecdote que tu lui dis là.
Par contre, avant ça, c'est ça le truc. Parce que souvent, on me reproche de commencer mes prépas bien avant, mais ce combat, par exemple, pendant 12 semaines avant le combat, j'avais fait chaque semaine mes 400 mètres et tout ça. J'avais vraiment commencé. J'étais parti en plein été à Dublin. L'été à Dublin, c'est vraiment, vraiment de la merde.
Ouais.
Mais il fait 18 degrés maximum. Il pleut tous les jours. Mais franchement, je n'ai pas regretté parce que je m'étais entraîné comme un chien. comme un chien juillet, août, et après, bon, je m'étais blessé.
Mais du coup, tu avais senti les bienfaits de toute
cette
grosse prépa.
Je m'étais blessé quand j'étais revenu à Paris. Je suis revenu à Paris pendant une semaine juste pour faire mes papiers médicaux. Wow. Et je me suis baisé au NR, je m'en souviens.
Wow. Nassim, qu'est-ce que t'as fait, Nassim?
Mais bon, au final, voilà, 8 victoires d'affilée.
Ouais.
Et puis, on va voir la suite, là. La suite.
Ouais, moi, Bruno Fontes, you're next, mate.
You're next, prépare ta nuque. Parce que ça va vite.
Il m'a bloqué sur Insta, frère.
Ah ouais?
Pourquoi? Et tu as bloqué un peu?
Non, rien du tout. Ah, du tout. Je suis allé voir une fois sa story.
C'est un fou, lui. Comment ça, il bloque les gens? Il bloque ses adversaires.
Il a peur de la guerre. Il veut pas montrer de petits détails, petits indices.
Il veut pas de cette fumée ou quoi? La peur de... C'est à cause de qui? C'est à cause de Doumbé? Ils ont peur des Français en ce moment ou quoi? Ils ont peur des fans français? C'est à cause de qui ça? Il bloque son adversaire comme ça, sans aucune raison.
Ok, direct, tu le trouves plus.
T'inquiète, on va aller voir ça en secret tout à l'heure.
T'inquiète, on va aller nous. Ouais. Il pourra pas nous tous nous bloquer.
On va
lui poser des questions. Ah, le fou.
Et lui, c'est plutôt quoi? Un striker, hein, quoi?
Ouais, bah lui, il fait un peu tout. Il boxe un peu, il va au sol. Tu sais, c'est un Brésilien, il est assez complet.
Ouais.
Mais il n'a pas vraiment de magie nulle part. En pied-point, il est ouvert de fou. Et là, je m'entraîne bien avec Imad, donc on va faire parler l'anglaise. Moi, là, j'ai vraiment envie de le coucher, celui-là.
Celui-là, c'est gros chaos.
Là, ouais, c'est... j'ai dit, envie de prendre des risques, bien à ne pas être safe de loin et tout, bien
hermétique
compact,
et coucher
hermétique,
les gens.
T'es frappé fort et lui laisser aucune chance. Et s'il shoot, l'étrangler direct.
Oh, ça va se passer, ça va se passer, moi, je te le dis. Il y a de la place pour.
Beau projet, belle activité, on aime bien. On aime bien pour ceux qui ont la ref. En tout cas, là, moi, j'avais te parler d'une autre chose, parce que je sais que les gens, ils ne parlent pas beaucoup de ça, malheureusement, dans les podcasts MMA français, mais il faut parler un peu d'MMA féminin, les gars. Un peu d'MMA féminin. Juste ton avis sur un combat de notre française Manon Fiorot, nationale, qui va arriver dans les prochains jours à l'UFC, qui va affronter la dangereuse 24 ans Blankfield. Est-ce que toi, tu aurais peut-être un mot à dire? Est-ce que tu penses que Fiorot est sous-estimé dans ce combat-là? Est-ce que tu aurais un avis sur le combat ou pas du tout? Pas une analyse complète. Hein.
Alors, juste moi, Manon, c'est la seule fille que je regarde parce que je ne regarde pas les combats féminins, j'aime pas ça.
Très bien.
Mais Manon Fiorot, c'est la c'est la seule que j'aime bien, regarder parce que je connais très bien son coach Aldric et j'aime aussi son style de combat parce que elle vient du karaté, elle frappe fort, elle est là pour se péter, pour se battre et je kiffe ça. Et pour moi, elle va gagner ce combat parce qu'elle a dû avoir encore comme d'habitude un vrai camp carré et je vais. Par contre, ce combat, ben c'est la seule que que je regarde d'ailleurs parce que. C'est intéressant à regarder et j'aime bien regarder. Et non, moi, je la vois gagner devant... Comment elle s'appelle?
Blankfield,
ouais, c'est la jeune. Là. Et non, pour moi, elle a plus d'expérience, elle est plus dure. Elle a dû avoir un camp très, très, très dur parce que Aldric, c'est un très bon coach. Là, on voit les résultats du Boxing Squad, c'est un truc de ouf. Et non, il est très, très, très bon et je suis sûr qu'ils ont un bon game plan et elle a dû s'entraîner comme une ouf. Et pour moi, elle va gagner ce combat et après, elle va...
J'espère
aller chercher la ceinture, ça serait lourd.
Pour historique.
Ouais. Ouais, en tout cas, Blanchefield, elle n'a pas intérêt à rester debout en distance de striking, sinon elle va se faire mêler. Hein.
C'est ça, mais moi, c'est ça le truc. En fait, elle va se faire boxer pour moi et elle ne va pas réussir à l'amener au sol parce qu'elle est dure à amener au sol maintenant. Donc,
Elle l'a prouvé dans ses précédents combats. Ouais. Ça, c'est sûr. Bah, quand une combattante comme Rose Namajunas, elle n'arrive pas... elle se fait mêler debout et elle n'arrive pas à l'emmener au sol. Je vois pas ce que Blanchefield, elle fera de mieux que Rose.
Et Rose, elle est meilleure en lui, elle a plus d'expérience et tout ça. Ben là, elle a gagné hier soir ou pas?
Il me semble que...
Tu regardes pas les combats féminins.
Je sais pas, j'ai pas regardé. Tu regardes pas non plus, je te comprends.
À la honte. À la honte, on se fait prendre au dépourvu. Attends, on va aller voir tout de suite.
Je crois qu'elle a gagné, ouais. Mais je crois qu'elle a gagné.
Il y a personne qui a gagné, on est tous les mêmes.
Elle a gagné.
Je suis un mec sur.
Elle a gagné par décision.
Sur Snap, comment il s'appelle celui qui met les combats? Djalito.
Ah, Djalito, ouais, je le connais.
À chaque fois qu'il met les combats neufs, il dit allez, c'est l'heure de la pause. il a raison.
C'est honteux.
J'ai vu sur les réseaux que son gars il avait été levé. Tu vois, et j'avais pas envie de m'affirmer tout de suite parce que j'ai pas regardé le combat malheureusement.
Il y a eu des bons combats hier. T'as vu Zalal, il a gagné, il a fait un combat de ouf.
Ouais, lui il faut le surveiller. Featherweight.
Ouais.
Dur.
Ça finit, hein, ça finit. Qu'on aime bien quand ça finit.
Zalal, en plus, il a été release de l'UFC, il ouais, est parti il combattre, puis il est revenu. Lui, c'est... il a pris Topuria, il a perdu la décision contre ouais. Topuria, ce mec. Lui, il faut le surveiller.
Non, lui, il est bon.
Ah, il a un gros pas ouais, oh, de
ouais, ouais, c'était serré. Et toi, là, c'est comment? Tu te verrais, tu le disais tout à l'heure, prendre des top 10, tout ça, mais en vrai... Ce que eux ne savent pas, les gens, c'est que toi, tu vas t'entraîner à droite, à gauche, et tu peux t'entraîner avec des gars qui ont du très haut niveau. Donc déjà, on le sait, tu t'es entraîné au SBJ.
À Killcliff.
C'est ça, Killcliff, en Thaïlande.
En Thaïlande.
Même t'as... avant, en pied-point, t'es allé aux Pays-Bas.
Ouais.
Donc en soi, est-ce que tu, dans le haut niveau, face à des gros combattants, et moi, bon, je peux le savoir, mais je pose quand même la question... Tu te sens comment? Tu te sens bien? Tu te sens dans le niveau, on va dire, dans le top niveau mondial? Tu te sens pouvoir performer et avancer petit à petit ou pas?
Ouais, ouais. Moi, mon poids à 66, il y en a, avec tous les mecs avec qui j'ai tourné, il y en a très, très, très peu qui m'ont dérangé.
Ouais.
Quand j'ai tourné aux États-Unis à Killcliff, ben voilà, j'avais moins de combats. J'avais que 4-5 combats pro. Et voilà, les seuls qui me dérangeaient, c'était par exemple des Dagestanais qui combattent en welterweight ou des gros 70. Mais sinon, ouais, à mon poids, moi, en plus, j'ai que 25 ans. Si j'ai pas de blessure et que tout se passe bien, Inch'Allah, moi, je me vois dans le top de la catégorie 66 dans les prochaines années. C'est dans les 2-3 ans qui arrivent.
Tout est explosé.
Sûr. Ouais. Ouais. Il faut. Ouais.
Mais ça, c'est intéressant. Ça prouve que c'est dans la carrière d'un combattant jeune. C'est ouais. important de s'entraîner dans des salles où il y a des combattants bien classés.
Ouais,
parce que ça te jauge justement par rapport au plus haut niveau mondial. Et là, justement, comme tu nous le dis, en fait, le fait de tourner avec eux, ça te donne de la confiance. Tu t'aperçois à l'entraînement qu'en fait, t'as déjà un très haut niveau. Et tu, voilà, y a pas, tu vois qu'il n'y aura pas forcément de limite dans les prochaines années c'est à aller ça. Chercher les gars du top 10, top 5.
Ouais, c'est ça. Et tu vois les... En fait, c'est là où tu te rends compte après aussi que, tu sais, quand les gens ils disent « Ouais, c'est juste des humains, ils ont deux bras, deux jambes », mais c'est la vérité. C'est là, quand on était en Thaïlande, c'est les petits, Paul et tout, quand ils sont tournés avec Mokaev et tout.
Ouais, là, ils se sont rendus
compte. Même chose, ils se sont rendus compte. Ah ouais, il est fort. Mais voilà, quand ils sont tournés avec d'autres mecs aussi, ils étaient là. Ah ouais, ils sont forts, mais... Et on se fait pas totalement exploser.
Ouais.
C'est le phénomène de. En fait, quand tu connais pas, quand tu vois des grands combattants à la télé, tu vois des gars bien classés, tu as tendance inconsciemment un peu à sacraliser en fait. À dire, ah, ça, c'est un niveau, tu sacralises ce niveau.
C'est ça.
En fait, après, tu gagnes de l'expérience, tu t'entraînes avec eux. En fait, ça désacralise la chose. Tu vois que c'est des humains comme toi. Voilà, ils ont plus d'expérience, ils sont probablement meilleurs, mais. Tu vois que tu pourras arriver à ce niveau-là.
Ouais, exactement. Et après, il faut tout remettre dans l'ordre parce que c'est pareil. Tu peux leur donner des très bons rounds, tu peux gagner des rounds dans l'entraînement. Mais l'expérience qu'ils ont dans la cage le soir du combat en Fight Night, c'est différent. Il y a l'entraînement et c'est comme il y a des champions de l'entraînement, il y a les champions le soir du combat. Hein. Et ça, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Différent. Donc même quand moi c'est ce que je me dis même quand j'ai tourné avec des gens aux States ou en Thaïlande ou au SBG en Irlande et tout, faut toujours rester les pieds sur terre et se dire ouais là c'était à l'entraînement, peut-être lui t'as pris deux jours de repos, lui il a eu une semaine où il s'est entraîné comme un ouf, boum, c'est pour ça que t'as réussi à lui mettre des bons coups, à passer des trucs. Ça veut rien dire. L'entraînement, ça veut rien dire. Il faut juste gagner dans la cage. C'est ça le plus important.
C'est exactement ce qu'on se disait avec BSD la dernière fois, dans le dernier podcast, où on a dit en fait, ce mec, c'est l'exemple parfait du mec qui se transcende en combat.
Ouais,
il est trop fort le jour du combat.
Exactement. Le soir du combat, il est grave, grave fort.
C'est ça.
Bien sûr.
Là, je vais te parler d'un sujet dont qu'on avait évoqué en plus avec. Monsieur, il y a longtemps, avec un autre podcast qu'on avait fait à distance tous les deux, au niveau de la jet, est-ce que ça a changé ou t'es toujours en mode Paddy Pimblett?
Non, moi, j'ai jamais été en mode Paddy Pimblett. moi, je mange juste du sucre.
Bah, il était un peu. Il était un peu. Pas en mode Paddy Pimblett.
Non, parler de génétique, Paddy Pimblett.
Mais.
Ouais, c'est vrai.
Non, non.
Génétique, Paddy Pimblett.
C'est quoi, si, Paddy Pimblett. C'est juste qu'il prend pas le grade, Paddy Pimblett.
Ouais,
c'est juste ça, en fait.
Moi,
c'est...
je peux manger ce que je veux. Moi, je mange
ce que je veux. Juste... Est-ce qu'il y a toujours le paquet de bonbons?
Oui, ben ça, voilà, tu vois, ça, tu peux pas, sinon. C'est, tu peux pas t'entraîner sans un paquet de bonbons, c'est la base.
C'est le pré-workout.
T'as besoin. C'est normal. Bon, Rémi va avoir envie de me balayer, là, mais tranquille.
Ouais, mais en vrai, je pense que Orkan, il mange comme il faut. Mais là, je pense, là, en ce moment, tu fais attention.
Ouais, je... Non, mais en fait, comme ça, moi, en général, je mange pas trop mal matin, midi, soir. C'est entre où je mange. Je peux m'envoyer n'importe quoi avant l'entraînement. Si j'ai... Voilà, j'ai me chercher une glace au Nutella chez Burger King juste avant l'entraînement. Ou c'est ça, une part de pizza. J'ai faim, je me prends une part de pizza, je vais à l'entraînement.
Ouais, ouais, si, j'ai capté.
Juste après, mais...
Mais ça, tu te dis pas, c'est justement dû à ton jeune âge, entre guillemets, pour le MMA, t'es assez jeune.
Si, génétique, pas du Pimblett, je dis ça,
c'est
en fait.
C'est ça, parce que peut-être arriver à 30, 35, après, ça sera peut-être pareil. Plus possible.
35, je serais plus là, j'aurais arrêté.
Ah, ok. De toute façon, on va y venir après, tes projets long terme.
Arrêter vers cet âge-là, tu devras transformer, on va dire, la glace ou la pizza par un smoothie avant d'entraînement.
Un fromage blanc.
Fromage blanc, putain, c'est ce que je prends en ce moment le matin. Fromage blanc, fraises, graines de... je fais le bobo parisien, frère.
Voilà, tu vois, on va passer à ça. Plus on va grandir, plus on va se...
Il faut.
Non, mais ouais, c'est intéressant, moi.
Voilà, et en ce moment, je mets même plus de miel, frère.
Ah ouais,
je me dis, non, pour le sait, quoi. Je me dis, je mets même
tu vois,
plus
il évolue,
de miel.
Hein.
Tu peux mettre du sirop d'agave pour remplacer.
Ouais,
tu verras. Pas mal.
Ma mère, elle m'a déjà dit de mettre ça.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà, on va passer au sirop d'agave, on va éviter un peu les glaces.
Sirop d'agave, les œufs bio, tout ça.
Les œufs bio, obligé, ça.
Ouais, toujours.
Ouais.
C'est mieux.
C'est bien sûr.
C'est meilleur. Voilà, moi, c'était ma question, c'était pour savoir comment ça avait évolué depuis. Mais là, visiblement, en tout cas, ça a l'air de marcher. Hein. 7-fight winning streak.
Yes.
Donc, c'est vraiment pas mal. Félicitations, vraiment. Ça
merci
fait
beaucoup.
Vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Là, on est devant le tapologie que du vert.
Ouais,
on en parlait, hein, ça. Dans la première fois qu'on... Je pense pas que tu t'en souviennes. J'étais en mode, moi, lunettes de soleil et tout. Et j'étais avec toi et Hazel.
Ouais.
Et on parlait de... On se reverra d'ici quelques mois, quelques années. Et voir comment est-ce qu'aura évolué votre tapologie, votre Sherdog. À la base, on dit Sherdog à l'époque.
Ouais, Sherdog. J'étais quoi? J'étais 2-1 peut-être à l'époque.
Ouais, un délire comme ça.
Un délire comme ça. Avant mon combat contre Barton. De la blessure.
Ouais.
Peut-être que c'était dernier fight d'Abu Dhabi que t'avais fait, peut-être.
Ouais, voilà, tu revenais de la fête à l'UAE.
Ah,
okay, j'étais ou 2-1 ou 3-1.
C'était un truc du genre. Mais ouais, mais c'est bien, il y a une belle évolution. Et surtout, en fait, le truc qu'il faut se dire, et que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que 7-1 dans deux orgas qui sont durs, tu vois. Bellator et Abu Dhabi Warrior, quand il va, forcément, on ne te donne pas de cadeau déjà.
Ouais.
Et Bellator, quand tu prends des Barton, des McCracken, des... Tout ça, ils sont forts, hein, tous ces mecs. Ouais. Hein.
Ah, j'ai pas boxé de clown. Hein.
Ouais, il n'a pas boxé de clown. Et donc, ça veut dire que la suite va être belle, tu vois.
Ouais.
Même là, par exemple, proposer un 7-0 pour Bellator Paris, je vous dis, ce n'est pas un match-up facile. Et la suite, elle ne sera pas encore facile. Et moi, ça me rappelle le fait que. Même tu voulais affronter, tu affrontes un 7-0 invaincu. Il y avait un autre mec là qui mettait des soumissions. Là.
Ouais, Lucas Brennan. Je voulais boxer ce mec. Pareil, trop fort. Pareil, c'est un mec très, très, très fort.
Qui est archi fort dans la KT. La KT des 66 au Bellator, elle est archi forte. Bellator et PFL, puisque maintenant, je ne sais pas s'ils peuvent te faire des one-shots à droite, à gauche, au PFL ou pas.
Ouais, c'est ça. Ils groupent tout, en fait. Même combattre au PFL avec ton contrat du Bellator et vice-versa.
Ouais, ça veut dire que là, tu te verrais une proposition si on nous refait un Doumbé à Bercy pour un Baxi Doumbé 2 sur la carte, peut-être. Ça pourrait être intéressant.
Ouais, moi, ça...
Mais là, du coup...
Mais là, j'ai essayé d'être sur la carte. Hein.
Ouais.
Ça, c'est parfait. Bon, après, en plus, j'ai le staff et tout, donc j'aurais pas pu.
Ouais.
Puis j'étais malade, j'ai eu plein de trucs, mais ça aurait été chaud, mais ouais, non, ça m'aurait pas dérangé d'être sur la carte du PFL.
Ça aurait été pas mal, ouais. Mais de toute façon, là, de toute manière, moi j'ai l'impression, j'ai ouï dire que Doumbé serait sur la carte du 17 mai.
Ouais, j'ai entendu ça, mais je sais pas,
pas si c'est vrai ou pas, mais ça peut être pas mal. Hein.
Ouais, ça serait une dinguerie.
Ça peut être pas mal.
C'est vraiment une dinguerie, mais face à qui, là on sait pas, est-ce que...
Mais ça, tranquille, ils peuvent lui ramener ou un mec chaud ou un mec normal. Le mec, parce que lui, c'est bien. Là, il a quoi, 5-1, du coup, ça lui fait ?
Ouais. Ouais.
5-1, il peut combattre. Ou un mec 2-0, un peu claqué, qui va chaoter direct.
Ouais.
Ou alors, il peut prendre un vétéran un peu plus... Il a juste le palmarès parfait. Ouais. Il peut prendre un mec où ça peut être très facile, un mec un peu de son niveau, ou un mec avec beaucoup plus d'expérience, mais un peu, tu sais, pour... Ouais, c'est ça. Là, il a le palmarès parfait pour combattre qui veut, surtout avec sa réputation et tout. Il peut...
Ouais.
Faire ce qu'il veut. Je m'inquiète pas pour lui.
Ouais, ça va aller. Ça va aller pour
lui. Ouais, non, je pense que là, c'est bon.
Tant qu'il n'y a pas une deuxième épine. Le...
Ah, pour putain, le ouais.
Ah, mais ça, c'est à cause des petits poches, je l'aurais dit. Hein. Il y avait trop de monde dans la cage. Puis, c'est là.
Putain, ils rentrent tous aussi.
Mais moi, je pense que ça fait vraiment du mal à l'image de marque. Même si y en a qui disent ouais, c'est de la faute de Doumbé et tout, ouais, c'est peut-être justement, à juste titre. Mais moi, je trouve que ça a vraiment fait beaucoup défaut à l'image du PFL. En France surtout. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont dit, mais surtout à niveau international, pardon. Aussi. Parce que les gens, ils ont dit, mais attendez, il n'y a que au PFL où on va trouver une épine dans la cage.
Il n'y avait pas que l'épine dans la même soirée. Il y a eu pas mal de choses, notamment, on se rappelle,
la speakeuse.
Du fameux Baki Temor qui a fait beaucoup polémique.
Ouais. Qui s'est passé quoi ?
T'as pas vu la speakeuse ?
La meuf qui
vivait. Elle était claquée, elle, quand elle commentait, quand elle faisait la traduction anglais-français. J'étais là, elle, la veille, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? J'avais mon pote Kayn Moussa qui parlait. J'étais là, mais elle.
C'est vrai, il y avait Kayn Moussa sur la carte.
On veut pas tirer sur elle, mais elle a refait des phases le lendemain pour la soirée. Et elle a fait crier à la foule avant le combat, Baki, t'es mort.
Ouais, elle criait genre.
Elle a fait rêver.
Si je vous dis Baki.
J'étais mort. Mais tu vois, je pense que c'est. Franchement, elle a été prise par la hype Doumbé, on va pas en reparler. Et elle a fait une dinguerie, et voilà, c'était complètement lunaire. Et elle a...
Ça arrive qu'en France, ça arrive. Ouais, exactement. Chez nous.
Non,
ça.
Mais attends, attends.
Ça peut pas arriver au stade. Voilà,
c'est pour ça que je te dis. Mais moi, je me pose des questions sur le BFL. Alors, ça qui arrive qu'en France. Ensuite, l'épine qui arrive, c'est inédit, hein. C'est jamais arrivé dans l'histoire du MMA.
C'est la première fois qu'un combat s'arrête pour ça.
Ça se trouve que c'est déjà arrivé. Hein. Ça se trouve qu'il y a déjà des gens qui se sont mangés des épines, qui n'ont pas réagi. Ça, on n'a pas parlé de ça aussi. Tu vois, c'est déjà aussi. Mais en tout cas, c'est jamais arrivé.
Non, mais la probabilité de chance de manger une épine pendant un combat, c'est quand même chaud. Hein. Elle est très faible. Hein.
C'est que le tapis devait être vraiment très très sale, poteau. Autant je te dis, pour que ça te dérange, c'est vraiment que ça devait être un truc de ouf. Je sais pas.
Il y en a un qui allait couper du bois la veille.
Ouais, il avait un bûcheron.
Franchement, je sais pas. Là, mais bref. Voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que maintenant, toi, tu peux combattre avec le merge qui s'est produit.
Ouais.
On peut te voir facilement aussi sur une carte du PFL.
C'est ça, exactement.
C'est ça, c'est excellent. Ça,
ça peut être vraiment lourd pour ta visibilité, surtout si c'est la même carte que un main event de Doumbé ou autre.
Ce qui est dommage en France, là, c'est par exemple sur la prochaine carte sur laquelle il est. La carte, elle est, à mon sens, plus folle.
Tu connais le MMA, tu sais qu'elle est lourde, la carte, c'est ça.
Elle est beaucoup plus folle que ce que le PFL nous a proposé, tu vois. Deux ceintures. Deux gros champions, toi t'avais tourné en plus je crois avec Magomed.
Ouais, Magomed Taïa, j'ai tourné avec lui à Killcliff.
Voilà, et
très très gros bon
niveau et tout. Et en soi, il y a moins de hype et c'est là où on voit que Doumbé il a fait un vrai boulot.
C'est ouf, il a fait.
Sur la com.
Ouais, il est trop fort sur ce qu'il a fait.
Il a fait un vrai boulot.
Vous pensez qu'il y aura. Vous pensez qu'il faut vraiment que les combattants ils commencent à surfer là-dessus, sur cette hype là ou pas? Parce que regardez. Là, j'ai l'impression, mais en France, ça a parlé de MMA partout. C'est bien, BSD, TF1, etc., c'est bien. Mais quand Doumbé, c'était à lui de combattre, il a réussi à mettre le MMA sur le toit du monde. C'est paradoxal ce que je veux dire, en France. C'est-à-dire qu'en France, on parlait que de MMA et plus d'autres sports au moment où c'était sa Fight Week. Est-ce que tu penses que les combattants, faut qu'ils s'inspirent un peu de ça ou ça ferait too much ?
Non, après, moi, je pense que les combattants, ils peuvent s'inspirer de ça, mais... Tu peux pas te forcer à être quelqu'un que tu n'es pas. Okay. Donc, il y en a qui vont l'être naturellement, il y en a d'autres qui vont se faire connaître autrement. Et il y a avant Connor, le MMA, c'était pas comme. Le avant Connor, le après Connor, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Sur la scène internationale. Et là, maintenant, sur la scène nationale, nous, il y a Doumbé qui a fait le avant-après du MMA.
Exact.
Et voilà, nous, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que c'était interdit encore, 4 ans.
2020.
C'était interdit. Donc, chaque chose en son temps. Mais pour moi, le MMA, ça va être le sport numéro 1 dans quelques années. Ça va être comme le foot, au bout d'un moment, bien sûr.
On est numéro 2 pour l'instant. On va les doubler parce que... taper les gens dans la cage, c'est plus divertissant que le foot en ce moment.
Ça, c'est vrai, mais...
mais on n'a pas encore les salaires du foot.
Ouais, pas, c'est ça le truc. Mais c'est grâce aux gens comme Doumbé et tout que tout va augmenter. Ouais, comme ouais, Connor, ouais. Il a tout fait augmenter. Les primes qu'aujourd'hui les gens peuvent prendre de partout, ça fait... Les gars, ils sont obligés de remercier Connor d'un côté. Hein.
Connor, c'est vrai.
Connor, après Connor, Khabib. Ouais. Même Khabib, il s'est fait connaître comme ça grâce à la hype aussi qu'il y avait sur Connor.
Même Khabib, il doit être remercié.
Et Khabib, même chose. Khabib, après, il a fait un travail de ouf. Ouais. Il a développé encore ça, là, surtout aux Émirats et tout ça. Maintenant, quand ils vont là-bas, c'est comme des rois. Ouais. Ils sont trop bien. Et lui, pareil, il a aidé. Pour tout ça, et là maintenant.
Maintenant, c'est à Hazel Adjou de développer.
C'est à moi de faire du sale
pour. Le en Europe.
Le pilier. Non, mais c'est vrai que ça fait penser à Ilia Topuria aussi qui a dit qu'on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. On ne peut pas insulter Connor, on n'a pas le droit. Bon. Ouais, même si aujourd'hui, Connor, on voit son état actuel, c'est un peu compliqué, on ne va pas forcément en parler. Parce qu'on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toute une transparence, c'est assez attristant. On espère qu'il reviendra dans la cage ou peut-être pas pour son intégrité physique. Mais Topuria a dit les travaux, entre guillemets, je vulgarise, les travaux de Conor McGregor sont à féliciter. Et on ne peut que être reconnaissant. Nous qui sommes combattants, il a dit, en gros, je le dis en anglais, he paved the way for me. Quoi. En gros, ce qu'il a dit, en gros, Topuria, c'est sans Conor, forcément, il n'y aura peut-être pas eu autant d'engouement qu'il a aujourd'hui. Il ne serait pas forcément allé au Bernabeu, il ne serait pas forcément obtenu sa citoyenneté directement, espagnole, etc., etc. Donc, je pense que c'est quelque chose que toi, tu peux le ressentir aussi en tant que combattant, notamment avec les Doumbé et autres. Quoi.
Ouais, non, mais si, bien sûr. Et après, ouais, non, et puis Conor en tant que combattant, parce que là, maintenant, on voit... On va dire en tant que personne, il abuse pour moi, là, tout ce qu'il fait en ce moment et tout ça. Mais en tant que combattant, quand il était en featherweight à l'UFC, quand il est arrivé, qu'il disait « Je vais te mettre KO au premier round. » Bam, il est arrivé KO au premier round. « Je vais te mettre KO au deuxième round. » Bam, il éteignait tout le monde. Après, il a pris Aldo. Boum, il a couché. Après, il a pris Alvarez. Chad Mendes. Après, il a fait Aldo et après, il a couché Alvarez. C'était une dinguerie.
En plus, la performance face à Alvarez... C'est un truc de ouf, la leçon de boxe de gaucher qui lui a.
Ouais,
c'est abusé.
Il lui a mis un classique.
Et c'est après Floyd en fait où ça a commencé à vraiment se
dégrader. Ouais, c'est ça. C'est là où on se dit, pour l'instant, j'ai pas vu de combattant d'MMA qui a touché un gros payday comme il l'a touché et qui est revenu au top niveau. C'est-à-dire que, est-ce que là, ça va être ça maintenant le challenge?
Là, on se pose la même question avec Ngannou. Là, est-ce qu'il va revenir dans la MMA?
Ça va être ça le challenge parce qu'on parle de salaire de footballeur, on parle de ces salaires-là. Mais est-ce que, avec la difficulté du train de vie d'un combattant de MMA de haut niveau, en touchant ce type de cachet-là, tu réussis à avoir cette même motivation. Surtout quand tu vois un Khabib qui est parti très tôt. Tu vois, tu dis, Khabib, il a commencé à toucher des gros... les gens ne se rendent pas compte. Il commence à toucher des très, très gros cachets à la fin de sa carrière.
Bien sûr.
Très, très gros cachets. Et il s'est dit, je me retire. Est-ce que c'est peut-être pas humain parce que c'est pas du foot, les gars. C'est pas du foot.
Mais ils sont intelligents, eux aussi.
C'est pas du foot, hein. Tu vois un combattant à 25 ans, tu vois à 35 ans, son visage, c'est pas le même. Il y a des blessures. Nassim, on peut parler... voilà, tu vois. Désolé, hein, c'est moi qui en parle.
Les gars.
Tu vois mais pour dire, c'est pas un jeu. Tu subis des dégâts, tu subis des coups.
C'est pas un jeu.
Tu mets ta santé toujours en jeu dans ce sport. Voilà, c'est vrai. C'est difficile de continuer. C'est là où ça fait de la peine quand tu vois des combattants, tu vois, en fin de carrière... à plus de 35 ans, même qui atteignent les 40, tu les vois toujours combattre. Tu dis, c'est quoi, ils ont besoin d'argent, tu vois, ça fait de la peine des fois. Tu vois des combattants, ils ont un âge et ils continuent à accepter des combats bourbiers pour eux.
Ils tirent sur la corde.
Ça me fait penser à Tony Ferguson, les mecs comme ça, les Yoel Romero, tu vois, ils combattent. Yoel Romero, il a quel âge? Il a bientôt 50 presque.
Ouais, c'est un truc de fou.
Tu dis, mais ça fait de la peine, tu vois.
Les Greg et MMA. Il a quel âge de 46 ans lui.
Après Greg c'est autre chose parce que Greg MMA c'est autre chose parce qu'il a aussi une casquette
je sais mais je me devais de
tu m'aurais dit Tony Ferguson ouais mais Yoel je le mets même pas dans cette catégorie là parce que le mec on dirait il a encore 18 piges on dirait dans sa manière d'exploser dans sa manière de détruire. Après je sais pas si c'est dans les combats.
Non mais
c'est dans les combats comment il est.
Non mais
le dernier combat qu'il fait c'est contre Santos en plus au PFL à Abu Dhabi.
Il a perdu.
Non, je crois qu'il gagne. Il gagne, mais c'était un no fight les deux, tu vois. C'était un peu, c'était particulier. Enfin, C'était particulier. C'était plus les deux mêmes fighters qu'on a vus dans le passé. C'était l'ombre de eux-mêmes.
Okay.
Mais ouais. Mais...
C'est là où tu comprends les combattants qui prennent un gros cachet en boxe anglaise ou en MMA et
qui se cassent. Bien et sûr. Voilà, qui
c'est ça.
Tu vois, on parle de Conor. Quand il va revenir à l'UFC, quand est-ce qu'il va revenir?
Non, mais même Conor, parlons d'Azaël. Azaël, toi là. Imaginons, on se projette. T'es à 15-1. T'as un 15-1. Bellator, t'as la ceinture. Ceinture unifiée. J'espère, Inch'Allah. Ceinture unifiée, PFL, Bellator. T'es super champ. Ensuite, on te propose un super combat. T'es une superstar. T'as géré au niveau de la communication, etc., etc. T'arrives à générer 15 millions de dollars sur ce fight. Le 16-1. Tu le remportes. Ensuite, on te propose une défense. Tu l'as fait. Ça fait 30 millions de dollars. Là, je dis n'importe quoi. Vas-y, on reste dans les 15 millions, 20 millions de dollars.
Je la défends même pas, la ceinture. Moi. Je la défends même pas. Je gagne. Après, tu me vois pas dans la carte. Après, je pense que je reviens une fois par an, histoire de me péter une fois par an, mais que pour le plaisir. Et ou un combat d'anglaise, ou un combat de pied-point, ou de MMA si j'ai envie. Mais je fais ce que je veux, je combats qui j'ai envie, je combats un vieux vétéran qui a 40 ans, juste histoire de me mettre bien. Si moi j'en ai 30, et si j'en ai 35, ben j'en cherche un qui a 45 ans. Et je m'en fous. J'y mets bien toute ma famille, j'aide Merci. Tout le monde.
Oui, c'est différent.
Tu fais comme Jake c'est Paul.
Mais tu vois la différence avec le
tu
football.
Tu fais comme Jake Paul, tu prends Tyson à 60 ans.
Mais c'est ça que moi je dis. Le système, c'est un sport, c'est un monde complètement différent du foot et des autres trucs. Ça n'a rien à voir. Là, on a la preuve. J'ai envie de te dire, logique ce que tu fais. C'est un choix logique.
Ouais, logique.
C'est logique.
Et en plus, comme tu dis, imagine, tu prends 15 millions, tu fais les investissements et tout, même si on me reprobe.
Ton argent travaille pour toi
c'est
après.
Ça après c'était tranquille
non franchement
ça,
c'est beau
c'est le, ça c'est ouais et après même en voyant moins gros ou et tout ça tu peux c'est moi je pense que faut que les gens même ils s'éduquent à faire les bons choix très tôt dès que tu gagnes de l'argent pouvoir investir dans des trucs qui vont te rapporter plus tard des fois je pense que faut pas faire n'importe quoi surtout avec l'argent des combats parce que c'est tellement dur à gagner.
C'est ça.
Que dès que t'en prends, faut faire les bons choix directement. Parce que tu prends des coups et y a rien qui est gratuit. C'est vraiment la route, elle est longue et elle est dure. Donc tu dois vraiment, vraiment être intelligent là-dessus et pas
ça, c'est
claquer
sûr.
Pour claquer.
Des mots de sagesse pour clôturer cela.
Jeune message.
Joli, joli, joli message. Et qu'est-ce que vous avez des mots à rajouter?
Moi, je sais pas. T'as pas d'anecdotes marrantes à nous raconter sur les derniers, je sais pas moi, camps d'entraînement ou quoi ou...
Non, là, rien.
Là, c'était déjà assez marrant, moi, je trouve. C'est drôle.
Non, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Rien de spécial.
Rien de spécial. La sagesse même dans...
Tant mieux, j'ai envie de dire.
Dans l'entraînement, furé.
Il y a pas Tong en Thaïlande qui était très drôle. C'était le zoo. Mais c'est tout, hein. C'était les cités de France mélangées aux Lady Boy, les flics qui couraient partout. C'était. Voilà, c'était un truc de ouf.
Deux mondes qui se rencontrent.
Voilà, si, mais big up à Bugila, hein, qui nous regarde probablement, qui lui aussi, il a fait son camp là-bas, il a croisé le petit John Jones au Bang Tao. Le grand John Jones.
Il y a du monde qui s'entraîne au Bang Tao.
Ouais, il y a du monde.
Il y a même la crime et tout, là.
Yeah, c'était le feu, je devais aller, mais je n'ai pas pu. Mais ouais, c'était le feu. Apparemment, février aussi, toi, t'étais quand?
Oui, j'étais janvier, février.
Janvier, février, ouais. C'est
ouais, là, tout le monde là-bas, c'est la période où tout le monde part là-bas.
Ouais, c'était le feu, c'était le feu.
C'est vraiment bon, j'ai raté. J'ai vesqui l'hiver, enfin, il paraît qu'il faisait bien froid en janvier.
C'était bizarre.
T'es bien parti.
Non, bah écoute, ça nous a fait plaisir, ce petit retour sur le podcast, en express.
Moi aussi.
On sera là, on va suivre les gars, les goats, suivez fort. Vous savez déjà, de toute façon, vous êtes déjà. On vous disait déjà que c'était quelqu'un. Là, il est en train de prouver. Et on vous redit encore dans 3 ans, revenez aussi ici. Revenez, même dans 1 an. Revenez, vous allez voir. On va vous dire. Non, sur ce, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Azaël, d'être venu. Vraiment, grosse force à toi. On te suit sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est Instagram? C'est Azaël?
C'est Azaël, A-S-A-E-L-16-01.
Magnifique.
Ouais. De toute façon, vous allez trouver, c'est la pastille bleue.
Bah ouais, sans payer parce que je suis pas une baltringue.
Non mais ça veut dire maintenant parce que tu as trop placé. Lui il l'avait avant.
Comment ah là, tu vas payer pour
lui l'avait avant. Il l'avait avant.
C'est pour c'est
non, j'ai
quelqu'un.
Eu après en plus hein.
Ah, tu l'as après en plus.
Ouais, je l'ai eu après parce qu'en fait tu peux la demander même.
Ouais. T'es pas obligé de payer.
Ouais, si si si. Quand t'as tant de followers, tu peux faire la demande sans. Ils te l'acceptent, ils te la refusent. Moi, ils l'avaient refusé. J'avais demandé 2-3 fois, ils me l'ont refusé. Et après, je l'ai redemandé, ils me l'ont accepté.
C'est pourquoi ? Parce que je crois que tu commences à apparaître dans des articles.
Ouais, exactement. Comme t'as un combattant pro. Les articles que j'ai.
Exactement. Et du coup, t'as été accepté. C'est carré. Bah voilà, les gars, faites les choses en vrai. Faites pas du superficiel. N'achetez pas votre pastille.
Non, n'achetez pas.
Très important.
Ça sert à rien.
Sur ce, bah les gars, le mot de la fin, je pense qu'on va dire peace, les gars.
Ciao.
Let's go.